J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi,
d'accord.
Moi, c'est André de Mbujimayi, au Katanga oriental. Je réfute totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Radio Capi qui vous propose parole aux auditeurs, votre espace d'échange et de partage. Le 1er juillet 2017, la Cour pénale internationale a lancé officiellement les activités marquant son 15e anniversaire. Cette campagne qui se déroulera jusqu'au 17 juillet 2017, journée de la justice pénale internationale, vise à s'engager avec la communauté globale pour que la justice triomphe et pour envisager l'avenir de façon à construire un monde plus juste. 15 ans après, quel bilan faire du travail de la CPI en RDC? C'est au sujet de cette question que nous allons nous retrouver tout à l'heure. Rejoignez-nous au 09 97 06 49 69 pour intervenir en direct. Mais le débat se poursuit également sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Ce magazine est mis en onde par Dieudonné Nyangassa. J.R. Lungembo est à la réalisation et coordination. Pierrot et la Mejivo le présente sous la supervision de Martin Sebougiangwe. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Les espoirs du monde ont été tournés vers la Cour pénale internationale dans le sens de créer un monde meilleur en mettant fin à l'impunité des criminels de masse. C'est ainsi que cette Cour existe et 15 ans après, nous faisons le point ensemble avec vous sur le travail abattu et surtout à RDC et puis à travers l'Afrique et dans d'autres pays. 09 97 06 49 69 pour intervenir en direct. Et dans ce studio, nous recevons Monsieur Patrick Tchiboui, assistant chargé de la sensibilisation à la CPI. Patrick Tchiboui, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. 15 ans, est-ce qu'on peut dire que c'est passé plus vite?
Oui, 15 ans, c'est beaucoup et c'est peu à la fois. 15 ans depuis que le statut de Rome est entré en vigueur un certain 1er juillet 2002. Mais aussi, il faut rappeler qu'à vrai dire, le mois de juillet était un mois assez particulier pour la Cour pénale internationale parce que nous avons deux événements majeurs qui se sont déroulés en juillet. Nous avons d'abord l'adoption du statut de Rome, la Cour pénale internationale, qui a eu lieu le 17 juillet 1998. Et par la suite, le statut de Rome est entré en vigueur seulement 4 ans après, donc le 1er juillet 2002. 15 ans, comme je le dis, c'est beaucoup, c'est peu à la fois, mais dans ces 15 ans, on peut quand même reconnaître que la Cour pénale internationale a marqué l'histoire, a marqué les esprits, a marqué la communauté internationale, s'est imposée comme étant une institution judiciaire pénale internationale de référence, institution auprès de laquelle nous avons énormément d'attentes qui sont formulées de la part des populations, pas simplement des populations en RDC, des populations en Afrique, des populations dans le monde en général. Aujourd'hui, lorsque vous avez des événements où on pourrait considérer qu'il y aurait des crimes graves qui seraient commis, maintenant les premières réactions que les uns et les autres ont, c'est de se demander où est la Cour pénale internationale, que fait la Cour pénale internationale. Donc il y a une forte attente par rapport à la Cour pénale internationale, mais il est vrai que ces attentes doivent être atténuées dans la mesure où certes la Cour pénale internationale par sa création a répondu à un besoin fondamental, mais la Cour a des procédures, la Cour a des limites liées à sa compétence, par exemple, temporelle. Des crimes commis avant le 1er juillet 2002 ne peuvent pas être poursuivis par la CPI, seuls des crimes commis après le 1er juillet 2002. Et la Cour est liée par, comme je l'ai dit, des critères d'ordre territorial. Elle ne peut poursuivre que les crimes commis sous le territoire des États parties ou des crimes commis par les ressortissants des États parties. Et la Cour ne peut être saisie que soit par un État parti, soit par le Conseil de sécurité des Nations Unies, soit par le procureur de sa propre initiative. Donc il y a là beaucoup d'éléments qui font en sorte, certes, elle est là, mais elle ne répondra pas à tous les besoins, surtout que d'ailleurs, elle est fondée principalement sur le principe de complémentarité. Et donc, avant même d'en venir à la Cour pénale internationale, les premières questions que l'on doit se poser, que font les États ? Et c'est comme ça que, bon, j'aimerais peut-être déjà dévancer les préoccupations des uns et des autres lorsqu'on se demande, mais pourquoi la Cour pénale internationale ne poursuit pas les ressortissants de X, Y, États qui sont membres de la Cour pénale internationale. L'autre question qu'il faut se poser, est-ce que ces États concernés partis ne poursuivent-ils pas leurs ressortissants? Si ces États concernés partis au statut de Rome poursuivent leurs ressortissants, la Cour pénale internationale ne pourra pas les poursuivre parce qu'elle a une juridiction complémentaire. Donc, il y a beaucoup d'éléments qu'il faut prendre en considération et je crois que dans le cadre de cette émission, on pourra en parler plus en détail.
Mais quant au, quand j'évoquais tout à l'heure 15 ans, ça peut être beaucoup, ça peut être peu, ça dépend de comment on porte le jugement. Mais rappelons quand même qu'il y a des affaires qui sont citées devant la Cour pénale internationale. Si on peut d'abord revenir pour le cas de la RDC, peut-on avoir une idée globale des affaires qui ont été citées? Mais d'une manière aussi globale, quand on regarde les degrés de conflits qu'on a dû avoir en Afrique de ces 10 ou 15 dernières années, on s'est dit quand même ce peu par rapport au nombre d'affaires qui sont citées devant la Cour pénale internationale.
Alors de manière générale, déjà pour les 15 ans, il faut retenir que nous avons eu 24 affaires ont été ouvertes devant la Cour pénale internationale. Nous avons eu 9 condamnations et un acquittement. 6 suspects sont détenus par la Cour, 6 affaires sont au stade du procès, 2 sont en phase d'appel et 3 sont en phase de réparation. Ça, c'est le bilan de manière générale de la, de ce qui a été fait pendant ces 15 ans. Mais pour en venir à la situation spécifique de la RDC, nous avons eu des affaires qui ont été clôturées ou pour lesquelles nous avons eu des condamnations dans l'affaire Thomas Lubanga. Thomas Lubanga a été reconnu coupable. En ce moment-ci, il est en train de purger sa peine ici en République démocratique du Congo. Germain Katanga avait également reconnu coupable. Il a eu à purger sa peine en RDC. Mais s'il reste en détention en RDC, c'est parce qu'il est poursuivi par la justice militaire congolaise pour d'autres faits que ceux pour lesquels il avait été condamné par la Cour pénale internationale et pour lesquels il a purgé sa peine. Mathieu Ngoudjolo a été acquitté. Pour le moment, nous avons le procès de Bosco Ntaganda qui est en cours devant la Cour pénale internationale. Nous avons un suspect qui est en fuite, qui n'a pas encore été arrêté, Sylvestre Muda Chumura, haut responsable des FDLR, qui est poursuivi pour des allégations de crimes commis dans les Kivu. Un mandat d'arrêt a été lancé contre lui, mais il n'a pas encore été arrêté. Mais un élément également important à relever, qui est aussi, qui fait partie du bilan de ces 15 ans de la Cour, c'est que la CPI vient de rendre, dans l'affaire Germain Katanga, sa première décision sur les réparations au profit des victimes. Ça, c'est un élément important à relever. Et nous attendons dans deux autres affaires, notamment Thomas Lubanga et dans l'affaire Jean-Pierre Bemba, nous attendons également les décisions qui seront rendues sur les réparations. Donc cette première décision est une décision historique pour la Cour pénale internationale parce que c'est la première fois, mais c'est également une décision historique pour la justice pénale internationale parce qu'on n'a jamais rendu des décisions des réparations pour les victimes. Vous imaginez que devant, par exemple, le tribunal militaire de Nuremberg ou le tribunal pénal international pour le Rwanda ou pour l'ex-Yougoslavie, ce n'était pas prévu. Mais le statut de Rome a prévu pour des victimes des droits spécifiques, le droit de participer aux procédures, mais également le droit d'obtenir des réparations. Et donc, nous avons une décision qui a été rendue par rapport aux réparations et qui fait partie donc de ce bilan des 15 ans d'existence de la Cour pénale internationale.
Voilà, on reviendra sur d'autres affaires qui touchent les pays africains. Nous écoutons Dieudonné qui est à Lubumbashi, Kevin est en Bandaka et Maître Sonville dans la même à Lubumbashi. On commence avec vous Dieudonné, merci d'être avec nous dans Parole aux auditeurs. Bonjour.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les milliers d'auditeurs qui nous suivent en ce moment. J'interviens depuis Lubumbashi. Comme je l'ai souligné sur votre page Facebook, que je n'ai analysé cette sensible question sans état d'âme, ni moins fanatisme, moins encore sentimentalisme. Mes impressions sont plutôt bonnes par rapport au bilan dans les 15 ans d'anniversaire de la CPI, lesquels bilan est dans une plus large mesure positive encore que pensent les autres, Pierrot. D'entrée de jeu, j'aimerais aborder cette question sous deux volets. Le premier volet est relatif aux objectifs que s'était assigné la CPI. Le deuxième, c'est relatif à l'accusation injuste portée contre la CPI, prétextant qu'elle est condamnée à négliger que les Africains et elle est à cet effet-là indépendante. S'agissant du premier volet, le bilan est positif en ce sens qu'en analysant juridiquement l'objet de sa création, la CPI poursuit rationnellement ses objectifs que sont d'obtenir la paix internationale et sanctionner ou réprimer les crimes internationaux. Donc en traquant les criminels de longs chaînés qui ont si longtemps endeuillé nos frères et nos sœurs de l'Est, nous sommes sans ignorer, à l'instar de Germain Katanga, l'ancien chef de guerre congolais condamné en 2014 pour son rôle dans les massacres lors des conflits en 2002. Il faut reconnaître que c'est grâce à la CPI que nous avons vu Thomas Lubanga, Maté, condamné à une peine de 14 ans de prison, l'ancien chef de l'Union des Patriotes Congolais UPC, pour avoir enrôlé des enfants de moins de 15 ans dans ses troupes. Bosco Ntaganda, nous avons Laurent Kunda et Bemba, ce sont des gens qui ont saccagé nos frères en Est, et nos frères attendent jusqu'aujourd'hui réparation. Et ils seront soulagés s'ils apprennent que ces vermines sont sévèrement châtiées. Pierrot, il faut reconnaître les évidences. C'est grâce à la CPI qu'aujourd'hui, en Afrique, il y a au moins cette accalmie, grâce à sa terreur qu'elle suscite dans la plupart de nos dirigeants sanguinaires qui sont prêts à tuer ou à exterminer leur propre population pour se maintenir au pouvoir. Donc, vous comprenez là que la CPI est une cour qui vient amener le salut pour les Africains qui étaient innocemment tués. Et donc là, j'aborde directement les deuxièmes volets relatifs à l'indépendance de la CPI. C'est que on est conscient que l'accusation récurrente parmi les élites africaines que la Cour pénale internationale mènerait une chasse raciale ou serait même carrément raciste depuis son entrée en fonction en juillet 2002. Cette Cour chargée, selon son préambule, de juger les crimes qui défient l'imagination et heurtent profondément la conscience humaine. Mais de là, Pierrot, vous voulez dire que la CPI est une juridiction, la CPI est une juridiction au mépris des sols africains, c'est trop hasardeux et imprudent, car en affirmant ainsi, on ignore notoirement sa nature juridique, Pierrot. La CPI est une juridiction à caractère universel, et en tant que telle, elle est supplémentaire, elle est supplétive des juridictions pénales nationales. Elle n'a pas une compétence concurrentielle. C'est autant dire qu'elle intervient lorsque l'appareil judiciaire du pays sur les territoires duquel se commettrait les crimes affiche une certaine velléité ou hésitation à poursuivre les crimes que la CPI intervient. Elle ne se saisit pas de fuite. Ainsi, les pays occidentaux, les gens parlent beaucoup de ça. Les pays, pourquoi est-ce que les pays occidentaux ne sont pas trop concernés par la CPI? Mais c'est la simple raison que leurs cours de tribunaux ne présentent pas beaucoup de failles que le nôtre pour poursuivre les criminels condamnés. Et ce n'est pas parce que la Cour est partiale qu'elle ne poursuit pas les pays occidentaux. C'est parce que leurs cours de tribunaux sont bien organisés qu'ils condamnent leurs propres criminels.
Voilà, merci beaucoup Emmanuel, merci beaucoup. Vous avez salué d'une manière plus large le travail de la Cour pénale internationale en estimant que déjà le fait qu'elle puisse poursuivre des criminels, ce qui veut dire qu'elle est en train d'accomplir ses objectifs. Elle poursuit les criminels, mais d'un côté, les gens qui pensent qu'elle ne poursuit que les Africains, c'est parce que dans d'autres pays membres, n'est-ce pas, leurs juridictions sont compétentes, n'ont pas de complaisance pour juger les criminels. Ils peuvent bien le faire parce que la CPI ne peut venir que d'une manière complémentaire. Merci beaucoup, Dieudonné. Kevin, vous êtes en Bandaka. Bonjour.
Bonjour Radio Capi, bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de votre radio.
Et vous avez également dit sur la page Facebook que pour vous, le bilan est positif.
Le bilan est positif, tenant compte des intérêts des victimes, comme je commentais sur votre page Facebook. Mais j'aimerais d'abord, pour commencer, essayer de rappeler la nécessité qu'il y avait pour le monde entier de mettre en place une juridiction internationale réprimant les individus auteurs des crimes internationaux, puisque sur le plan international, il n'y avait pas moyen. Il n'y avait pas moyen de réprimer les individus, et que c'était seul parmi les personnes soumises à l'application du droit international, il n'y avait que les États qui pouvaient être réprimés civilement sur le plan international, et que de nombreux bévues qui se commettaient dans des États par les individus, il était difficile de pouvoir réprimer. Et depuis plusieurs décennies, on a essayé de voir comment mettre en place une juridiction réprimant les individus sur le plan international, a établi une responsabilité pénale individuelle sur le plan international. Voilà pourquoi la CPI est née, la CPI est là pour donner une solution sur la responsabilité pénale individuelle au regard des crimes internationaux qui étaient jusque-là impunis. Voilà, c'est dans ces contextes-là que la CPI est née. Mais j'aimerais aussi évoquer que dans la mise en œuvre de la CPI, parce qu'on est en train de parler du bilan, et que certains pensent que, puisque seuls les États africains sont majoritaires sur les dossiers devant la Cour pénale internationale, et que la Cour serait partiale sur ce point-là. C'est pour cela que je vais rappeler la responsabilité des États, puisque la CPI n'est qu'une organisation internationale de coopération. Ce n'est pas une organisation internationale d'intégration où les décisions prises par les institutions supranationales s'imposent directement aux États. C'est une organisation internationale de coopération où les États sont les premiers responsables pour appliquer les politiques de l'organisation internationale. Mais ce qui n'est pas le cas pour nous, les États ne facilitent pas, raison pour laquelle la CPI est habitée de problèmes, en fait des enjeux opérationnels. Voilà, les États ne jouent pas leur rôle. Il y a les cas Omar El-Béchir qu'on cite, il devait être arrêté en Afrique du Sud, ce qui n'était pas le cas. C'est déjà un problème. Et en plus, on parle de l'Afrique comme première victime. Mais qui saisisse la Cour pénale internationale? On dit qu'il y a trois modes. Et dans les trois modes, il n'y a que les États qui intéressent la Cour pénale internationale. Lorsque la Cour pénale internationale est informée des circonstances qui se passent sur un territoire donné, c'est à ce moment-là qu'il peut ouvrir une enquête. Mais l'enquête ne peut pas aboutir dans le sens des procès si les États eux-mêmes ne se sont pas encore engagé dans les procédures judiciaires le premier, raison pour laquelle on parle du principe des complémentarités, ce sont les États eux-mêmes. Et c'est seulement lorsque les États sont incapables ou n'ont pas la volonté de poursuivre que la CPI peut se saisir de ces dossiers. Voilà pourquoi ça me pousse à dire que la mise en œuvre normale de la Cour pénale internationale dépend aussi de la volonté des États à organiser leur système judiciaire interne. Puisque lorsqu'il y a des crimes, par exemple, qui sont commis au niveau du Kasaï, on va voir, est-ce que la RDC est capable de réprimer ces crimes? Si elle est capable, on le laisse faire. Mais si elle n'a pas la volonté, la CPI intervient directement. Là encore, on va dire qu'il y a partialité ou impartialité, je ne sais pas moi. Alors pour ce qui est du bilan, je me suis focalisé sur les intérêts des victimes.
Merci.
En principe, la CPI n'était pas créée pour les États. La CPI était créée pour les individus subissant les atrocités de massacres, de guerres et autres. Si c'était créé pour les États, on n'aurait même pas parlé de la Cour internationale de justice. Mais il s'est fait que les États africains, lors de la ratification de cet instrument, ils étaient les premiers, ils étaient le plus majoritaire à pouvoir ratifier ces traités. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'on vient résoudre un problème. Mais lorsque on constate que la majorité de nos dirigeants politiques, ce sont des ex-belligérants, ce sont des anciens rebelles. Alors, puisque maintenant là, ils se retrouvent au pouvoir et qu'ils pensent que la CPI pouvait serrer son étau sur eux, tenir compte de leur passé criminel. Et voilà, maintenant, ils sont en train d'accuser la CPI de ceci, d'accuser la CPI de cela. Voilà,
merci beaucoup, Kevin. Merci.
Et puisque je termine par là, rapidement, puisque ça a été créé pour les victimes, on doit vraiment féliciter ce pays, puisque déjà aujourd'hui, sur le plan des réparations, on est en train de voir des avancées significatives. Et
merci.
On a qu'à applaudir. C'est...
Merci beaucoup, Kevin. Vous l'avez dit, la CPI n'a pas été créée pour les États, elle a été créée pour les victimes. Dès lors qu'on peut poursuivre des criminels et que les victimes puissent être consolées, puissent recevoir de la réparation, ça suffit, parce que on ne peut pas s'attendre que les anciens belligérants puissent accepter de coopérer facilement avec la Cour pénale internationale. Et vous avez insisté sur ce caractère coopératif des États pour faciliter à la CPI de faire son travail. Mais vous saluez le travail qui a été fait, tout en estimant que ce travail vient en aide aux victimes, pas aux responsables politiques et puis aux États. Merci. Nous allons à Lubumbashi, Maître Sonville. Merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Pirot. Bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio Capi.
On vous écoute.
Oui, Monsieur Pirot, par rapport au bilan dont vous parlez, dans notre studio, dans votre studio, moi j'estime que le bilan est mitigé. Pourquoi je dis que le bilan est mitigé? Moi j'aurais cru que la CPI a été créée pour dissuader certains actes d'atrocité qui se passent à travers le monde. Mais il y a eu quand même des petites avancées. Mais moi j'aurais voulu que la CPI puisse dissuader les dirigeants qui sont à la base des tueries, qui sont à la base du crime contre l'humanité, qui sont à la base des homicides. Mais je suis un peu déçu du fait que ces actes-là odieux sont en train d'être perpétués par nos dirigeants et qu'ils ces dirigeants-là ne craignent absolument rien. C'est comme si la CPI n'existait pas. Pour illustrer cela, en Libye, il y a toujours des guerres. Il y a des crimes contre l'humanité. En Centrafrique, ça continue. Au Congo, n'en parlons même pas. Le cas, il est trop récent par rapport... moi, je peux qualifier ça de génocide, de crime contre l'humanité au niveau de l'espace kassaïen. Mais qu'est-ce que la Cour pénale est en train de faire? Puisqu'elle est là dans cette prérogative, on reconnaît cette compétence-là. Mais pourquoi cette Cour n'en agit pas? Moi, j'estime qu'il y a une très grande lenteur dans l'agissement de la Cour, dans la pose des actes de la Cour. Moi, pour moi, j'aurais proposé à cette Cour d'élargir un peu son champ d'action. Et de placer quand même des personnes compétentes au niveau des différents pays, là où il y a quand même des exactions, pour que la Cour puisse en saisir d'au plus d'une manière qui est célérité par rapport à la saisine de cette Cour-là. Mais il ne faudrait pas que cette Cour puisse attendre que la population soit tuée, que les dirigeants puissent s'entêter et remettre même en cause certaines compétences de la Cour. Là, je ne comprends absolument rien. Il faudrait qu'il y ait une certaine contrainte dans l'application de l'acte posé par la Cour et que les dirigeants puissent se confirmer. Moi, j'aimerais dire ceci, M. Pirot. Il faudrait qu'il y ait une certaine imposition par rapport aux États. À ce moment-là, il y aura respect de la Cour et il n'y aura plus d'exactions.
Merci.
Si je parle de cela, pourquoi, M. Pirot? Moi, j'estime que la Cour peut aussi élargir son champ d'action par rapport d'abord aux dirigeants qui sont en train de vouloir s'éterniser au pouvoir, de s'obstiner au pouvoir, en tuant la population, en posant des actes de n'importe quelle manière, et sous prétexte qu'il y a la souveraineté.
Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup, maître. Vous estimez que la Cour devrait élargir son champ. Les bilans sont mitigés. L'effet dissuasif, vous ne le sentez pas, d'autant plus qu'il y a des crimes, des actes qui continuent à se commettre, par exemple sur le continent africain. Vous auriez aimé voir la Cour aller plus loin, d'une manière plus contraignante, afin que les États africains, les dirigeants, les gens arrivent à avoir peur exactement que la Cour existe. Prof Ignace et Maître Adrien, vous gardez la ligne. Plusieurs commentaires sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Il y a notre ami Fabrice Matoumouabiri qui nous écrit de Boutembo, qui dit ceci: s'agissant du bilan des 15 ans d'existence, au moins nous pouvons nous frotter les mains, car nous avons vu la CPI arrêter et juger des chefs de guerre qui ont violé puis tué sur le sol congolais. Alors, Maître Gervais, lui, estime qu'il est bilan et critique Théophile qui tutoie. Nous n'avons pas besoin de faire trop d'analyses sur les bilans de la CPI au Congo. Quoi qu'il en soit, négatif ou positif, cela n'a aucun impact sur la vie actuelle des Congolais. Je ne sais pas s'il faut qu'on donne des lunettes aux gens de la CPI pour comprennent qu'il y a des crimes qui continuent à se commettre à l'Est et aujourd'hui le Kassai est ajouté. Alors il serait mieux pour la CPI de se saisir rapidement de tous ces crimes. 09 97 06 49 69 pour intervenir en direct.
Découvrez les modèles et les talents congolais dans le magazine Étoile. Des hommes et des femmes au parcours exceptionnel. Trouvez une source d'inspiration à travers ces personnes connues et ces citoyens lambda sur Radio Capi. Étoile, de la découverte à l'inspiration. Radio Capi vous propose des hommes et des femmes d'exception. Suivez-les dans le magazine Étoile tout le samedi à 14h05 et 19h05, puis en rediffusion le lundi à 15h30, heure de Kinshasa.
Parole aux auditeurs.
Voilà, nous revenons à vous, Patrick Tibouy. Vous avez suivi les amis qui se sont exprimés tout à l'heure sur la question. Bilan positif, bilan mitigé. L'ensemble des éléments, quelle peut être votre réaction?
D'abord, merci à tous les auditeurs qui ont réagi. J'aimerais peut-être partager un discours assez fort, parce qu'on parle des 15 ans d'anniversaire, qui avait été prononcé par un très grand professeur, africain d'ailleurs, le professeur Chérif Bassouani, qui était le président du conseil du comité de rédaction du statut de Rome de la Cour pénale internationale, et qui avait fait un discours lorsque le statut avait été adopté, en 98 déjà, mais qui était un discours assez précurseur. Il dit ceci, en parlant de la CPI, « Elle ne mettra pas fin au conflit, ne redonnera pas la vie aux victimes, ne rendra pas aux survivants les conditions antérieures de bien-être et ne permettra pas de traduire en justice tous les criminels. Mais, elle pourra, donc la CPI, elle pourra aider à éviter certains conflits, à réduire le nombre des victimes, à juger certains criminels. Et en tant que telle, la CPI ainsi que d'autres institutions juridiques nationales et internationales ajoutera sa contribution pour rendre notre civilisation plus humaine. » Il ajoute quelque chose d'assez intéressant, toujours par rapport à la Cour pénale internationale, dans son discours, après l'adoption du statut. En 98 déjà, il était président du conseil du comité de rédaction. Finalement, si la CPI ne sauve qu'une vie, ainsi qu'il est dit dans le Talmud, ce sera comme si elle sauvait l'humanité tout entière. Donc, c'est pour dire, comme je l'ai partagé tout au début de cette émission, que les attentes sont grandes, sont énormes par rapport à cette institution qu'est la Cour pénale internationale. Mais il est vrai que la Cour pénale internationale ne pourra pas poursuivre tous les auteurs des crimes graves. Je prends simplement le cas de la situation en RDC. En RDC, la Cour pénale internationale, bien que le procureur a eu à l'annoncer à plusieurs reprises que son bureau continuait son travail en République démocratique du Congo, tous les auteurs des crimes graves qui auraient pu être commis en RDC ne seront pas poursuivis par la Cour pénale internationale. Mais si la CPI ne poursuit que certaines personnes, par exemple en République démocratique du Congo, c'est déjà un signal fort. Et comme l'ont dit certains auditeurs, l'action de la Cour pénale internationale pousse ou est censée pousser le système national à réagir. Parce qu'en fin de compte, quelle est la logique? La logique est, pour les États partis au statut de Rome, qui tiennent à leur souveraineté, la logique est de dire, nous ne voulons pas, c'est vrai que nous avons créé la CPI, nous ne voulons pas que la Cour pénale internationale poursuive les crimes commis sur notre territoire, nous voulons nous-mêmes le faire. Et pour le faire eux-mêmes, ils vont utiliser ce principe fondamental qui dit, complémentarité, qui dit que c'est eux qui sont les premiers responsables. Mais maintenant, si un État parti veut exercer pleinement les compétences que pourrait exercer la Cour pénale internationale, parce que c'est lui qui a la primauté, il devra le faire dans les normes telles que prévues par le statut. Or, Parmi ces normes, nous avons un élément fondamental, c'est le fait que la CPI poursuit qui que ce soit sans tenir compte de son statut officiel. Ça voudrait dire que lorsqu'un État parti veut efficacement poursuivre les auteurs de crimes graves en se disant « la CPI, nous l'avons créée, mais moi-même je peux les poursuivre », cet État devra nécessairement faire en sorte que son système national poursuive tous ses ressortissants, quel que soit leur statut. Chef d'État, membre de gouvernement, député, sénateur, pour les crimes graves qui relèvent de la compétence de la CPI, les États partis doivent s'assurer que leur législation interne donne les compétences qu'il faut à leurs juges, à leurs tribunaux pour le faire. Mais s'ils ne le font pas, si par exemple vous dites, ok, nous on va poursuivre, mais certaines personnes bénéficieront toujours de certaines immunités pour les crimes graves, à ce moment-là, vous laissez cette partie de la population à la merci, entre guillemets, de la Cour pénale internationale, parce que si vous, vous ne pouvez pas les poursuivre, parce que vous conservez les immunités par rapport à eux, la Cour pénale internationale peut les poursuivre. Or, devant la Cour pénale internationale, on ne retrouvera pas un bataillon qui aurait commis, par exemple, une attaque contre une population civile. Ils ne seront pas devant la Cour pénale internationale. Ce qu'on va retrouver, ce va être les plus hauts responsables. Et c'est justement la logique de l'article 27 qui fait que comme la Cour ne poursuivra que les plus hauts responsables, il ne devrait pas avoir d'immunité devant la Cour. Et par rapport aux immunités, parce que c'est un élément qui semble un peu sur lequel les gens répondent, par rapport aux immunités, il faut que les auditeurs se rappelle que les immunités non reconnues par la CPI n'ont pas été inventées par la CPI. Même au tribunal militaire de Nuremberg, même au TPIR, le tribunal pénal international pour le Rwanda et pour l'ex-Yougoslavie, les immunités ne sont pas reconnues, elles n'ont pas d'impact. Donc la CPI n'a rien créé de nouveau. La CPI n'a simplement n'est qu'une continuité du système juridique pénal international qui ne reconnaît pas d'immunité.
Alors quand on regarde, on a vu la réaction de chef d'État africain dernièrement, on sait que l'adhésion elle a été individuelle, l'Union africaine est montée au créneau en estimant que la CPI poursuivait plus. Pensez-vous aujourd'hui, dans les cas de chef d'État, on a vu le dossier Omar El-Béchir pour qu'il soit arrêté. Pensez-vous que ces chefs d'État ont-ils cette volonté de faciliter la tâche à la Cour pénale internationale et de coopérer, délivrer l'un de leurs? N'est-ce pas là une façon de dire oui, nous coopérons avec la CPI, mais n'entrez pas dans nos affaires, laissez-nous libres de faire ce que nous voulons. Et après, on crie à l'impérialisme, comme on l'a vu dernièrement avec l'Union africaine.
De manière générale, et les juges de la Cour pénale internationale qui s'occupent de l'affaire concernant le Soudan l'ont eu à le rappeler à plusieurs reprises. Le mandat d'arrêt délivré à l'encontre du président Omar El-Béchir, certes en fonction, est un mandat d'arrêt qui a été délivré en conformité avec le statut de Rome de la Cour pénale internationale, notamment l'article 27, et en conformité avec une résolution qui a saisi la Cour pénale internationale pour la situation Darfour, résolution du Conseil de sécurité. Et en vertu de cela, les États partis sont obligés de coopérer avec la Cour pénale internationale. Et même les États non partis, du fait que la résolution du Conseil de sécurité qui a saisi la Cour pénale internationale demande, et au Soudan, État non parti, ainsi qu'à tous les États membres, d'apporter leur coopération à la Cour pénale internationale, cela entraîne le fait que même les États non partis au statut de Rome pour la situation spécifique de Darfour, ces États non partis sont appelés à coopérer avec la Cour pénale internationale, non pas parce qu'ils sont États membres, parce que la coopération ne pèse que sous les États membres, mais parce qu'une résolution du Conseil de sécurité, agissant en vertu du chapitre 7, donc mandatée par tous les États membres des Nations Unies, États membres des Nations Unies qui sont membres de la Cour et ceux qui ne sont pas membres de la Cour pénale internationale, qui ont mandaté le Conseil de sécurité d'agir en leur nom, en vertu du chapitre 7, et donc lorsque le Conseil utilise le chapitre 7, saisit la Cour pénale internationale et demande à sa résolution que les États puissent coopérer, ces États sont appelés à coopérer. Donc il est important de relever ce point, et puis aussi, comme certains auditeurs l'ont dit, mais beaucoup de situations des enquêtes de la Cour en Afrique l'ont été à la demande des pays africains. La RDC, c'est la RDC qui a demandé à la CPI de venir ouvrir des enquêtes. C'est l'Ouganda qui a demandé. C'est le Mali qui a demandé à la Cour pénale internationale d'ouvrir des enquêtes. C'est la Centrafrique. Et lorsque ces États ont saisi la Cour pénale internationale, il faut encourager, parce que ces États ont manifesté leur volonté de lutter contre l'impunité en demandant à la Cour pénale internationale de pouvoir intervenir.
Exact. Prof Ignace, merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour, merci pour l'invitation. Je remercie d'abord l'invité. Mais laissez-moi dire déjà, en parlant du bilan, que il faut reconnaître que la CPI a joué quand même un rôle de persuasion, car certaines inconduites, n'est-ce pas, ont été signées dans le premier moment, ça il faut le dire. Il y a eu une certaine diminution lorsqu'on a pris le gros poisson qui dérangeait concernant notre pays, l'Est. On a senti qu'il y a eu une certaine réserve. Mais quand on regarde aujourd'hui, on a comme l'impression que la vitesse, l'influence que notre
professeur, pourriez-vous vous déplacer un tout petit peu, professeur? On a des petits soucis, hein. Votre ligne est entrecoupée entre le studio et Ecolusi. Pourriez-vous vous déplacer tout en intervenant?
Oui, alors je disais que quand on regarde aujourd'hui l'influence de la CPI par rapport à ce qui se passe dans notre pays, il me semble qu'il y a une résurgence. C'est comme qui dirait, les acheteurs n'ont plus peur. Hein? Moi, je me dis, c'est peut-être un problème de conception. C'est que la prison, quand on regarde les gens qui sont amenés à la prison de la CPI, à la haie, on regarde leur état de santé, comme ils sont en train de vivre. On a vu Bosco Ntaganda qui s'est livré, il est allé. Mais vous sentez que il y a des gens qui gardent encore bonne mine. On a comme l'impression pour les rebelles, les gens qui dérangent les autres, que là-bas, il serait mieux entre rester ici, se faire mettre dans une prison où l'on souffre et aller à la haie. On choisit d'aller là-bas. Donc je veux simplement dire ici que la persuasion se fait au début, mais maintenant il semble qu'il y a une résurgence, même si le rôle des institutions de justice nationale ont un grand rôle à jouer là-dedans. Mais il faut dire ici aussi qu'il y a un problème de défi qui reste pour la CPI. Je parle beaucoup plus, ça tombe bien, Maître Tchiboui, comme chargé de sensibilisation, je crois qu'il a un très grand rôle à jouer. À mon humble avis, j'ai comme l'impression que les partis ont signé des accords sur le fonctionnement d'une structure dont ils ne saisissaient pas exactement la portée. La preuve, c'est qu'à un certain moment, des pays commençaient à remettre en cause le rôle de la CPI et chercher à s'en rétracter. Ça, c'est une première préoccupation. Mais aussi, pour nous, citoyens du monde, c'est qu'on a comme l'impression que la sensibilisation n'est pas exactement l'entendement des citoyens ou les attentes. C'est que Maître Tchiboui, là, a un grand rôle à jouer. Je ne sais pas s'ils ont pensé à traduire, n'est-ce pas, ne fût-ce que le fonctionnement pour faciliter la compréhension, parce qu'il semble que là,
Voilà, professeur, on a des petits soucis de ligne avec vous, mais on a suivi l'intégralité de votre intervention. Vous avez salué ce qui a été fait comme travail, mais à un certain moment, on a eu l'impression qu'il y avait exactement une dissuasion. Mais maintenant, vous vous rendez compte que les crimes, nous sommes dans une forme de phase de résurgence des crimes encore sur le continent, à RDC en particulier. Mais d'un côté, il y a de grands défis auxquels la CPI doit faire face, y compris aussi les défis de la sensibilisation. Merci beaucoup, Maître Adrien. Vous êtes à Kananga, au Kasaï central. Merci d'être avec nous. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Oui, bonjour, Pierre Lamengi. Bonjour à monsieur l'invité.
On vous écoute.
Oui, merci beaucoup. Il faut reconnaître que sur le plan pratique, le bilan est positif parce que la CPI a véritablement joué son rôle. Ici, je reviens pour renforcer ce que l'invité venait de dire, parce que penser que la CPI doit ou devait éradiquer totalement les conflits dans nos pays, moi je pense que c'est une erreur de notre part. Parce que lorsque nous prenons même nos juridictions nationales, je prends à la volée comme ça la loi portant protection, la loi sur les violences sexuelles promulguée en 2006 et mise en application, vous allez vous rendre compte que malgré la rigueur, l'efficacité de cette loi-là, au jour d'aujourd'hui, nous continuons toujours à voir les violeurs à gauche et à droite. Et cela ne veut pas dire que les juridictions ne font pas correctement leur travail. Non, ils font ça, mais il y a un comportement au niveau des pays, et ce qui est normal. Donc, par rapport à la CPI, il faut reconnaître qu'elle a joué son rôle, Mais ce que j'ai toujours demandé, mais malheureusement, je ne suis pas toujours compris, c'est parce que M. Patrick Tshibouyi l'a relevé lorsqu'il fait allusion au tribunal militaire de Nuremberg, lorsqu'il fait allusion au tribunal pénal international pour le Rwanda et pour l'ex-Yougoslavie. J'ai toujours aussi proposé que la CPI devrait aussi adopter cette autonomie. Hein, donc, parce qu'au jour d'aujourd'hui, la CPI n'intervient que d'une manière complémentaire. Si vous avez des juridictions capables donc de faire correctement le travail, la CPI n'intervient pas, mais elle intervient d'une manière subsidiaire. Et c'est ce que moi j'ai toujours trouvé ça comme une faiblesse donc de la part de la CPI, parce que si elle avait une autonomie comme les trois juridictions par moi et par M. Patrick cité, je pense que ça pourra renforcer l'efficacité et aussi la force même de la CPI. Oui, deuxièmement, pour terminer, Pierrot,
oui.
Par rapport à la lenteur, je pense que si la CPI pouvait un peu revoir un peu sa procédure, parce qu'elle est trop lente, mais efficace, bien sûr, ça sera vraiment une très bonne chose.
Merci beaucoup, Maître Adrien, revoir la lenteur des procédures, mais aussi aller au-devant, confirmer l'autonomie de la CPI, c'est ce qui peut faire qu'elle s'impose hein, sur les autres, quand bien même elle ne pourrait pas éradiquer les conflits, mais dis-moi, vous saluez ce qui a été déjà fait comme travail. Georges, vous êtes à Manonon, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Pierrot, bonjour aussi à tous les auditeurs de la Radio de la Paix.
On vous écoute,
oui,
Georges.
En ce qui concerne les bilans, comme l'a dit Monsieur Sonville, la partie de Lubumbashi, le bilan est mitigé. Oui, est mitigé, c'est là où c'est positif, parce qu'il y a quand même, après la création de la CPI, il y a quand même l'arrestation de certains seigneurs de guerre qui ont contribué peut-être au massacre. À l'Est, oui, il y a maintenant certains seigneurs qui craignent pour créer peut-être des groupes ou pour créer des rébellions, craignent pour être arrêtés par la CPI. Là, Monsieur Perrault, là où nous demandons, la CPI doit faire l'effort en ce qui concerne peut-être il y a la CPI intervient quand la personne se trouve à l'opposition. Je vous donne l'exemple en Côte d'Ivoire, parce que quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir, on avait remarqué quand il était au pouvoir, on n'avait pas passé à l'arrestation. C'est quand il s'est trouvé à l'opposition qu'on l'a arrêté. Je prends un autre exemple, Omar El-Béchir en Afrique du Sud. Si c'était un opposant, on devait l'arrêter. Comme il était au pouvoir, on ne devait pas l'arrêter. Alors, on a peut-être la tendance de savoir qu'il y a certains présidents en Afrique qui commettent peut-être, ce ne sont pas des présidents, mais aussi des gens qui sont tout proches du pouvoir, qui contribuent peut-être, qui font du désordre, mais la CPI n'intervient pas. Elle intervient quand la personne se trouve dedans. On
dans l'opposition. Et là, c'est cette impression que je lisais tout à l'heure sur la page Facebook où un auditeur disait, un internaute disait, on risque d'avoir cette perception que la CPI est utilisée par les uns contre les autres. Hein. Vous avez évoqué les cas de la Côte d'Ivoire, ça a été plusieurs fois dénoncé où les gens estiment que non, voilà, c'est quand on n'est pas content de quelqu'un, alors on les livre à la Cour pénale internationale. Avant d'écouter notre invité, Baudouin, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour. Baudouin, bonjour. Voilà, on a des petits soucis sur la ligne des Baudouin. On fait un pont à un bon acquicute plutôt avec Jean Baya. Bonjour Jean.
Bonjour Pierrot.
On vous écoute Jean.
Oui, merci pour le débat Pierrot. Je sais que ceux qui ont parlé avec moi ont déjà presque tout dit, mais je crois moi la première chose je voulais dire, si la CPI ne pouvait pas élargir sa mission par rapport au niveau d'infraction, parce qu'apparemment il y a certaines infractions qui sont commises, mais au niveau national nous trouvons qu'il y a une légèreté. Ça c'est de un. De deux, je me demande si cette cour ne fait son travail qu'au niveau des opposants, et si en dehors de cela, est-ce que je pose la question à l'invité, parce qu'il a lu quelque part, il a dit, il a même lu les idées d'un professeur. Il a dit que la Cour ne saura pas mettre la main pour terminer tous les problèmes. Mais est-ce que au niveau nationale avec ce qui se passe pour le moment. Est-ce que la Cour est en mesure d'arrêter les dirigeants qui sont en fonction? Ça, c'est peut-être la question que l'invité
pourra répondre. Voilà. Merci beaucoup. On retourne directement à vous, Patrick Tchiboui. On a suivi, contrairement peut-être dans d'autres émissions, les gens étaient à un certain moment très, très virulents contre la Cour pénale internationale dans plusieurs débats, mais on sent que beaucoup de choses ont évolué. Et est-ce qu'il y a cette perception qu'il n'y a que le faible qui sont poursuivis par la Cour pénale internationale?
Non, j'aimerais vraiment rassurer les auditeurs que la Cour pénale internationale n'est pas contre l'opposition ou pro-pouvoir ou contre-opposition. Pas du tout. La Cour est une institution judiciaire pénale indépendante qui n'a pas de coloration politique et donc qui n'a aucune acquaintance soit avec la majorité, soit avec l'opposition. Pour preuve, le président Omar Abdelchir, qui est en fonction, fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la Cour pénale internationale. Comme je l'ai dit, l'article 27 est un article fondamental dans le système de la Cour pénale internationale parce que comme la Cour ne peut poursuivre que les hauts responsables et de hauts responsables qui pourraient bénéficier des immunités telles que prévues en droit interne, mais la Cour a donc voulu que toutes ces personnes soient poursuivies devant la Cour pénale internationale. Donc, s'il y a des éléments qui indiquent au procureur que X personnes pourraient être poursuivies et faire l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'une citation à comparaître, qu'il soit de la majorité de l'opposition, le procureur de la Cour pénale internationale est à la possibilité juridique, c'est permis, c'est autorisé, il doit le faire ainsi, de le poursuivre. Donc, il n'y a aucun blocage qui empêcherait au procureur de poursuivre qui
mais
que ce soit.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il des affaires qui ont été à l'initiative du procureur lui-même aujourd'hui?
Effectivement. Et c'est là que j'aimerais donner un exemple qui est en dehors du continent africain. Mm-hmm. Le procureur a, de sa propre initiative, qui est une possibilité pour lui de déférer une situation, de saisir pour qu'une affaire soit présentée devant la Cour, le procureur a, de sa propre initiative, ouvert des enquêtes en Géorgie. La Géorgie est en dehors de l'Afrique. Mais c'est le procureur de sa... Géorgie qui était un état parti pour des événements qui s'étaient partis sur ce territoire, vous savez, à une certaine époque. Donc le procureur a ouvert des enquêtes de sa propre initiative en Géorgie, comme il avait ouvert des enquêtes de sa propre initiative en Côte d'Ivoire, comme il avait fait également au Kenya, de sa propre initiative. Mais j'aimerais revenir également à la question de la lenteur. C'est vrai que c'est un grand défi et les juges de la Cour pénale internationale en sont conscients de ce défi et travaillent parce que le statut reconnaît le droit à l'accusé d'être jugé sans retard excessif. Et si vous regardez un peu la procédure pendant les 15 ans, vous allez voir qu'il y a eu un effort considérable des juges de faire face à des questions de lenteur, de pouvoir amener des procédures dans la célérité. Par exemple, dans l'affaire Thomas Lubanga, l'audience de confirmation de charge de Thomas Lubanga, la première audience de confirmation de charge que nous avons eue dans la situation en RDC, a eu lieu du 9 au 28 novembre 2006. Donc, nous avons eu quand même plus de, à peu près, 2 semaines. Je vais directement à la dernière audience de confirmation de charge de Bosco Ntaganda. Bosco Ntaganda, son audience de confirmation de charge a eu lieu du 10 au 14 février 2014. Seulement 4 jours. C'est pour vous dire, entre la première audience de confirmation de charge de Thomas Lubanga, où c'était la première fois pour les juges de pouvoir organiser une telle audience, et avec le temps qui s'est écoulé pour qu'en 2014, avec Bosco Ntaganda, l'audience de confirmation de charge n'a duré que 4 jours. Mm-hmm. Donc il y a un effort considérable qui est fait par le juge.
Mais rapidement, est-ce qu'il y a d'autres affaires africaines aujourd'hui devant la Cour pénale internationale, en dehors de ce que nous avons cité par rapport à la RDC?
Oui, nous avons évidemment la situation en Centrafrique, et peut-être c'est pour corriger un des auditeurs qui avait...
parlé de Jean-Pierre Bemba.
De Jean-Pierre Bemba, mais c'était seulement en passant. Jean-Pierre Bemba est poursuivi, a été condamné pour des crimes qui auraient été commis par ses troupes en Centrafrique. L'affaire Jean-Pierre Bemba fait partie de la situation en République centrafricaine. Mm-hmm. Et nous avons également au Mali, où nous avons eu une condamnation pour des destructions des monuments qui avaient été faits au Mali. Nous avons également la situation en Ouganda, où nous avons un procès contre un des responsables de la LRA. C'est vrai que Joseph Kony n'est pas encore arrêté, mais un autre de ses responsables est déjà devant la Cour et donc est dans un procès. Et nous avons également la situation en Côte d'Ivoire, avec notamment le président Laurent Gbagbo,
Monsieur Charles Blégoudé,
qui sont poursuivis devant
mais la Cour pénale internationale. Mais parce que tout à l'heure, un auditeur évoquait la situation des gens de pouvoir. Rappelons quand même qu'au Kenya, il y a eu même le vice-président.
Effectivement.
Qui ont été
et
cités.
Et le président, le vice-président.
Ils sont même présentés d'ailleurs.
Effectivement, parce qu'ils sont présentés, parce qu'ils étaient poursuivis sous base d'une citation à comparaître. On n'avait pas délivré un mandat d'arrêt. Mais il est vrai, il est aussi important de dire que dans ces deux affaires, les affaires ont été arrêtées. La procédure a été arrêtée sous décision des juges. Mais nous avions là des poursuites contre un chef d'État en exercice et un vice-président également en fonction, mais sous base d'une citation à comparaître, évidemment.
Bon, donc, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur.
On vous écoute.
Oui, je voulais intervenir un peu. À entendre un monsieur qui est sur le plateau, il se jette beaucoup de fleurs, il y a beaucoup d'efforts. Est-ce qu'il a atteint ses objectifs? Les cas les plus clairs, les plus récents, c'est Gédéon Katanga. Il est là, il roule carrosse. Mais lorsque l'opposition a voulu faire la pression sur les régimes qui sont au pouvoir, la Cour pénale internationale a écrit clairement que si vous arrivez à déborder, vous allez avoir affaire à moi. Mais les régimes en place qui tuent chaque jour, on ne le poursuit pas. On dit qu'ils sont au pouvoir. Moi, j'ai l'impression que la CPI a été créée pour cajoler les dictateurs qui peuvent continuer à tuer parce qu'ils savent qu'ils quitteront jamais le pouvoir. Et c'est comme ça le système. Moi, je veux, de manière claire, parce que je ne suis pas juriste, qu'ils nous disent si vraiment la CPI a atteint ses objectifs. Parce que l'objectif majeur, c'est de décourager les tueurs. Mais en RDC, en termes de statistiques, nous, on a comme l'impression que du jour au jour, les tueurs ne font que s'inscrire. Vraiment, il faut qu'ils s'examinent, qu'ils mettent la main sur le cœur pour dire que mon bilan est négatif. Parce que l'objectif n'est pas atteint. Les cas les plus récents, d'ailleurs, je veux vous rappeler qu'il y a un rebelle à l'Est qui, à l'époque, quand il était de vigilance, pouvoir, il ne pouvait pas être arrêté. Jusqu'à un moment où il s'est brouillé avec le pouvoir et en ce moment, il a été livré. Et moi, j'ai comme l'impression que la CPI, excusez-moi les termes, ça va être un peu plus fort, n'a pas ses raisons d'être. Parce que, comme il vient, il dit que, et ils vont venir en appui. Alors, mais quand quelqu'un d'obédience pouvoir tue et que la justice de son pays ne le poursuit pas, qu'est-ce qu'eux, ils vont faire? Ils vont rien faire.
Parce mais que, rappelons quand même, Baudouin, rappelons quand même que la CPI, on l'a dit plusieurs fois dans nos émissions pour terminer, la CPI n'arrête pas les individus, elle travaille sur base de la coopération sous réserve de la réponse que Patrick Tshibui pourra donner. Merci beaucoup pour cette précision. Merci aux auditeurs, vous êtes nombreux, on revient à vous, Patrick Tshibui, pour d'une manière globale chuter dans cette émission.
J'aimerais remercier tous les auditeurs qui ont participé à cette émission, mais j'aimerais rassurer tous les auditeurs sur le travail que fait la Cour pénale internationale. Les défis sont encore là et les défis sont importants. Et un des défis importants que connaît la Cour pénale internationale, c'est notamment la coopération. La Cour a besoin de la coopération des États. De toutes les façons, même devant les juridictions nationales, pour que lorsqu'un juge rend une décision, ce sont les services de police. Ce n'est pas le juge qui descend et puis qui prend, qui arrête le condamné. Il y a des services qui sont là, des services de police, qui doivent justement faire exécuter les décisions des juges. Le juge n'exécute pas les décisions lui-même. C'est un peu la même chose avec la Cour. Ce ne sont pas les juges, ce sont les polices. Mais les polices sont des polices des États. Et les États ont l'obligation de coopérer avec la Cour pénale internationale. Et donc, comme les auditeurs ont également l'ont répété, rassurez-vous, la Cour pénale internationale est une juridiction indépendante et est une juridiction qui a seule mission de lutter contre l'impunité sans aucune coloration politique, sans aucun problème racial.
Merci beaucoup Patrick Tshibui. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'assistant chargé de la sensibilisation à la Cour pénale internationale. Merci à Gilles Lungembo qui était à la réalisation et la coordination de ces magazines, mise à nom de par Dieudonné Niagassa. Pierrot Elamé, je vous l'ai présenté sous la supervision de Martin Seboujango. On se retrouve le lundi pour un autre numéro des Paroles aux auditeurs. Mais en attendant, nous vous souhaitons un agréable week-end en compagnie de Radio Capi. Au revoir.